le speed dating de l'immobilier avec Arkéa Banque Entreprises et Institutionnelles le 13 septembre 2023 sur Radio Immo et Radio Territoria.
Et bien voilà, nous continuons notre road trip ici au speed dating d'Arkéa, la maison de la chimie. Nous sommes dans le 7e arrondissement. Il est 9h25 et vous êtes sur Radio Immo, accompagné toujours de Fabrice Coustet.
Bonjour à tous.
Ça va toujours, Fabrice ?
Ça va bien.
Et j'ai le plaisir d'accueillir sur le plateau Sophie Lecoq. Bonjour.
Bonjour.
Alors je crois que c'est une première d'ailleurs sur notre média. On est ravis de vous avoir, très honoré. Vous êtes la directrice de la foncière de la ville de Paris. Voilà. Gros sujet, bien sûr, on va vous poser des questions, mais comme il est d'usage, c'est Fabrice Coustet qui va vous poser la première question.
Voilà, bah écoutez, on est ravis effectivement de vous avoir. Est-ce que vous pouvez nous faire une présentation rapide de ce que fait la foncière de la ville de Paris pour ceux qui ne vous connaissent pas encore ?
Oui, bien sûr. La foncière de la ville de Paris est un organisme de foncier solidaire qui a été créé à l'initiative de la ville de Paris en 2019 et qui comprend également les trois bailleurs sociaux de la ville de Paris. C'est un organisme donc qui a vocation à relancer l'accession sociale à la propriété à Paris. Oui. Accession sociale qui en avait disparu tout simplement parce qu'il n'existait pas de produit, si je puis dire, jusqu'ici qui soit assez anti-spéculatif pour le marché parisien qui était en croissance permanente.
Ah, carrément anti-spéculatif. Ah oui, vous y allez fort là.
Les organismes de foncier solidaire mettent en place le bail réel solidaire, qui est un dispositif complètement anti-spéculatif, dans la mesure où il permet une dissociation économique entre le foncier et le bâti. Il permet que les organismes de foncier solidaire restent propriétaires à un horizon de temps infini du foncier.
C'est vous qui allez d'ailleurs, je crois, mener la première opération, c'était par rue Planchat ?
Notre première opération, c'est dans le quartier Saint-Vincent-de-Paul.
Oui,
en Boissonnade.
Absolument, Saint-Vincent-de-Paul. Vous aviez été les premiers, je crois, hein, à mettre en œuvre le bail réel et solidaire, il me semble.
On n'a pas été tout à fait les premiers, mais on a été parmi les premières villes en France à développer ce dispositif du bail réel solidaire.
Ça a cartonné, cette opération ?
Cette opération
vous
a
aviez un nombre de postulants phénoménal.
On a en effet eu 120 dossiers par logement. Donc ce qui est
120
bien,
pour combien de logements ?
23 logements.
120 dossiers par logement.
Exactement.
Considérable. Et là, dans le cadre du BRS, donc très bonne idée, hein, le BRS. D'ailleurs, toutes les grandes métropoles ont emboîté le pas, hein, aujourd'hui, et les OFS se sont créés. Ce qu'il faut saluer cette idée. Le plafond du mètre carré, t'es à combien ?
Le plafond à Paris, c'est 5 500 € du mètre carré. Ça, c'est le plafond légal.
Ouais.
Mais nous, on vend plutôt autour de 5 000 € du mètre carré. Voilà, donc ce qui représente encore aujourd'hui la moitié des prix parisiens, même si on est sur une tendance.
Il faut que Fabrice postule. Hein,
Pourquoi pas. Ah, en tout cas, vous êtes soumis quand même au problème de la raréfaction du foncier. Ce défi du foncier, comment on y répond aujourd'hui, Sophie Lecoq ? Où est-ce que vous allez chercher finalement des nouveaux logements, des nouveaux terrains disponibles ?
C'est une excellente question, puisque à Paris, on a l'impression qu'il n'y a plus de foncier. Quoi. Tout est...
On a l'impression, mais en fait, il y a encore du foncier. On a différents modes d'action. D'abord, à Paris, il faut savoir qu'il y a quand même encore des grandes zones d'aménagement ou des lotissements, donc sur des friches, si je puis dire, notamment sur des grands terrains SNCF ou RATP, qui sont en maîtrise de ces grandes institutions
grande,
publiques.
Grande ceinture parisienne. Alors, plutôt intramuros, c'est comment ?
Alors nous, on ne travaille que intramuros de D'accord. toute manière.
Ouais.
Donc on a encore des grands terrains dans Paris Nord-Est notamment, qui est encore la plus grande zone où il y a des terrains disponibles, mais pas que. Donc on a encore toutes ces grandes zones d'aménagement où on fait énormément de programmes en BRS. Ça, c'est notre premier mode d'action et qui contribue très fortement à notre production. Notre deuxième mode d'action, c'est de travailler sur l'existant, hein, ce que toutes les villes aujourd'hui développent. Et donc, on va travailler sur le rachat d'immeubles, notamment par le biais de préemption de la ville de Paris, qui va nous revendre des immeubles, pour les transformer. Donc, actuellement,
oui, qui appartiennent à la ville de Paris.
Non, qui sont rachetés sur le marché libre.
D'accord. Mais sur le marché libre, ça coûte un peu cher. Non ?
Bien sûr, mais la ville de Paris a une politique de préemption très active pour la production locative sociale et du coup aujourd'hui aussi pour la production de
BRS. Et donc elle aura les moyens d'acheter au prix fort lorsqu'il y a des ventes en bloc ou des ventes d'immeubles, c'est possible ?
Ça dépend ce qu'on appelle au prix fort. La ville de Paris, oui, peut acheter à un prix de marché, mais jamais au-dessus du prix de
marché.
Oui,
je suis d'accord, mais on a vu par exemple un immeuble se vendre il n'y a pas plus de 15 jours dans Paris, pas forcément dans un quartier majeur, mais quand même au mètre carré, c'était pas moins de 10 000 € le mètre carré quand même.
Oui, mais la ville de Paris a une politique de préemption très, très dynamique avec un budget qui est consacré. Et donc aujourd'hui, le BRS a des immeubles qui ont été préemptés par la ville de Paris, revendus à la foncière de la ville de Paris pour faire du BRS. On a par exemple un immeuble de garage qu'on va transformer en ancien parking, qu'on va transformer en logement.
En logement.
On a aussi un immeuble insalubre qu'on va transformer en logement BRS. Et on a aussi par exemple un terrain vierge où on va faire une construction.
Quel est votre objectif en volume ?
Là, de production, actuellement, on a plus de 1000 logements en cours de conception.
D'accord. Et votre objectif annuel, c'est d'entrer dans une vitesse de croisière à quel chiffre ?
C'est être autour de 200 logements par an.
Par an, d'accord. Ce qui est très bien.
Vraiment. Alors, on a compris, il y a les friches RATP SNCF, les préemptions, bien évidemment, et puis il y a un nouveau levier, Sophie Lecoq, c'est le PLUB, un nouvel acronyme, le PLU ah oui, bioclimatique
Fabrice, en 2025. On en a beaucoup parlé. Donc, il n'y a pas un média qui ne s'est pas épanché sur le PLU, alors avec des bons, des mauvais, des critiques, des pas critiques, etc. Ça serait bien qu'on essaye un peu de faire le ménage dans tout ça et de nous dire quel était le sens, effectivement, de ce PLU bioclimatique. Je crois que c'est une première en soi. C'est presque un morceau d'architecture, d'urbanisme incroyable.
Cependant, moi, je vais parler du PLUB du point de vue du BRS, oui, parce que c'est quand même pour ça que je suis là.
Voilà, qu'on sache un peu plus ce qu'il y a dedans, voilà.
Et donc, en ce qui concerne le BRS, le BRS fait son entrée, en fait, dans le nouveau PLU bioclimatique de la ville de Paris, puisque, évidemment, il n'était pas présent dans l'ancien PLU, puisque le BRS n'existait pas au moment de la rédaction du précédent PLU. Donc, le BRS fait son entrée, et donc, il est prévu de faire du BRS dans le cadre de servitude de mixité sociale, c'est-à-dire que quand un promoteur privé, notamment, réalise un immeuble de logement privé, il est obligé, dans certains quartiers de Paris, de réaliser une part de 30% de BRS dans son programme. Donc ça, c'est une première manière de faire du BRS. Et une deuxième manière, c'est ce qu'on appelle les emplacements réservés, c'est-à-dire de certaines parcelles dans Paris qui sont pastillées, c'est-à-dire que si elles mutent un jour, elles devront être transformées en immeubles de BRS. Donc ça, c'est deux grandes... Et donc ça, on en a plus d'une centaine aujourd'hui qui sont pour nous dans le PLUB. Donc ça, ce sont pour nous, évidemment, deux grandes avancées et une manière de produire beaucoup de BRS à Paris.
Voilà, avec parfois une levée de bouclier sur ce pastillage, justement.
Alors, je ne suis pas sûr qu'effectivement les propriétaires bailleurs ou les propriétaires dans le secteur privé voient ça d'un œil, on va dire, relativement positif. Non, mais soyons clairs, les médias ont beaucoup glosé sur cette action. Mais encore une fois, il n'y a pas de débat. Quand vous voyez... Alors, je sais que vous avez un périmètre d'expression politique limité, on est d'accord. Hein. Mais quand vous voyez que les DMT, enfin les droits de mutation à titre onéreux sur Paris, par exemple, ont baissé de pratiquement 400 millions d'euros, est-ce que ça inquiète la municipalité dans sa politique offensive du logement ? Comment on résout cette équation qui fait qu'aujourd'hui, il y a de grandes, grandes difficultés structurelles de se loger dans Paris ? Et même plus que ça, vous le savez, puisque vous connaissez les chiffres, on a même chaque année une décroissance démographique qui fait qu'il y a des Parisiens qui partent, qui quittent Paris.
Alors une fois de plus, je vais répondre comme
dans
mon secteur.
Voilà.
Et la politique de la ville de Paris est quand même extrêmement active sur le développement d'une offre de logement qui soit adaptée à tous. C'est-à-dire qu'on a le logement locatif social, hein, où la mairie de Paris a une action extrêmement dynamique depuis 20 ans sur le sujet, avec aujourd'hui un taux SRU qui atteint 25%, donc voilà, ce qui est très positif de ce point de vue-là. Et donc maintenant, on a le développement du BRS donc depuis 2019, qui est un produit qui vise un segment un peu différent de la population, et plutôt les classes moyennes parisiennes, et qui vise notamment à favoriser ce qu'on appelle les parcours résidentiels ascendants, donc de permettre à des ménages...
C'est une bonne solution pour travailler la mixité sociale intramuros, de lutter contre la gentrification des quartiers. Ça, c'est ça l'idée, hein, de la municipalité. D'essayer d'apporter un équilibre. Moi, je trouve ça extrêmement positif.
C'est de maintenir la mixité sociale à Paris et que chacun puisse trouver une offre de logement qui lui soit adapté. Donc le BRS, pour le coup, vraiment s'adresse
c'est
à une cible de population qui n'était pas visée jusqu'alors par la politique publique.
Oui, justement, c'est intéressant, Sophie Lecoq, d'avoir cette vision, parce qu'on a l'impression que Paris est souvent bloqué. En plus, on a cette pression qui arrive avec des logements qui vont disparaître, avec de plus en plus de logements aussi qui sont mis sur le marché pour la location, saisonnière, avec l'objectif JO 2024. Est-ce qu'on peut contenir ça et faire revenir effectivement des logements vacants à Paris, intramuros ?
Une fois de plus, voilà, on a une politique très dynamique de production d'une offre nouvelle de logements. Notamment aussi, le nouveau PLUB va favoriser la transformation donc, d'immeubles qui sont bureaux, parking, garage, en logement, avec la diminution de la place de la voiture à Paris. L'idée, c'est aussi qu'on a toutes ces infrastructures qui vont être moins utiles et qu'on va pouvoir transformer en logement. Et par ailleurs, juste pour répondre aussi sur la décroissance démographique, on sait bien qu'à Paris...
C'est un sujet, c'est 10 000, c'est entre 5 et 10 000. Alors ça dépend des années, mais là, on est quand même sur une courbe qui est plutôt inquiétante. Hein.
C'est un sujet, mais quand on regarde pourquoi, le principal sujet, c'est parce que les gens n'arrivent pas à se loger dans des conditions acceptables.
J'ai quitté Paris pour aller habiter à Fontenay-sous-Bois. Voilà.
Voilà.
Parce que j'avais plus de moyens à Fontenay-sous-Bois qu'à Paris.
rare. Et ce qu'on voit souvent, c'est que les familles, enfin, ce sont les familles qui quittent Paris. C'est-à-dire que alors, avant, c'était l'arrivée du deuxième enfant. Aujourd'hui, c'est l'arrivée du premier enfant, souvent, qui conduit à un départ de Paris. Et donc, de ce point de vue-là, par exemple, la foncière de la ville de Paris a vraiment un objectif de créer des logements familiaux. C'est-à-dire que nous, notre cœur de cible, c'est les T3 et les T4. Et c'est ce qu'on produit principalement avec vraiment cet objectif de produire pour les familles et de leur permettre de
rester à Paris. Sans renier sur la qualité et sans renier sur l'espace.
Non.
D'accord. Donc, digne, décent, économe, bioclimatique.
Alors, on a des objectifs bioclimatiques extrêmement importants. Et de toute manière, en tant qu'opérateur de la ville de Paris, on se doit d'être exemplaire. Et la ville de Paris a des objectifs très importants à la matière. Nous, par exemple, quand on construit dans les zones d'aménagement avec les aménageurs de la ville de Paris, on est déjà en RE 2028 aujourd'hui. Enfin, c'est ça les objectifs. Donc non, on ne rogne absolument pas sur la qualité. Et on fait un travail vraiment main dans la main avec les architectes que l'on retient pour chacun de nos projets pour faire des logements qui soient quand même optimisés en taille, parce qu'il faut aussi que les acheteurs puissent les acheter.
Bien sûr.
Parfaitement confortable et qualitatif.
À 5000 euros du mètre carré, c'est quasiment plus de la moitié moins que le marché libre, comme vous le disiez tout justement. C'est une formidable mesure, je vous le dis, je la salue, comme tous les grands professionnels de l'immobilier, puisque effectivement, l'ennemi mortel, finalement, des quartiers, c'est la gentrification. Ça crée des barrières sociales, ça crée des barrières, et que ce qui salue finalement l'action collective en termes de culture, en termes de brassage, mais aussi d'histoire, c'est et ça restera la mixité sociale. Donc je salue complètement votre action. Et je félicite la mairie d'ailleurs, la collectivité, de s'être engagée de façon offensive. Merci Sophie Lecoq. Je rappelle que vous êtes la directrice de la foncière de la ville de Paris. On a compris qu'effectivement vous avez un périmètre d'expression qui vous incombe, mais ça on le comprend tout à fait. En tout cas, merci d'avoir répondu à nos questions et d'être passé par le plateau de Radio Immo. Voilà, merci, il est 9h36. On va se retrouver dans quelques instants pour la suite de nos programmes avec Fabrice Coustet.
Le speed dating de l'immobilier avec Arkéa Banque Entreprises et Institutionnelles le 13 septembre 2023 sur Radio Immo et Radio Territoria.